RCC, l'ITV Calvez, animé par François Colombani. Le rendez-vous du lundi sur les 91.7 de la bande FM en direct. François Colombani reçoit aujourd'hui Daniel Bourselet, la directrice par intérim du centre hospitalier de Calvi. François, bonjour.
Bonjour Anto, comment ça va avec ce temps maussade?
Bien, mais écoute, il fait plutôt bon, donc ça va. Hein, un peu de pluie, un peu de fraîcheur quand même, ça fait du bien, non?
Ça fera du bien, oui. Alors, aujourd'hui, dans l'interview Calvez, comme tu l'as dit, j'ai le plaisir de recevoir Daniel Bourselet. Alors Daniel, en votre compagnie, nous allons parler de cette pandémie, de prévention et apprendre un petit peu les aménagements de l'hôpital de Calvi, que l'hôpital de Calvi a effectué afin de faire face à ce virus. Alors je sais que votre parole est rare et tout ce qui est rare est précieux. Merci d'avoir accepté l'invitation. Première question, avant de faire un petit laïus sur l'historique de l'hôpital, après des mois de labeur à être sur le pont, un deuxième confinement, comment allez-vous ?
Écoutez, ça va, on est effectivement sur le pont, mais c'est pour les patients et les personnes qui sont atteintes de la Covid que c'est plus compliqué. Mais en tant que personnel de santé, on sait que quand on fait ces métiers, on est appelé à un moment à pouvoir avoir ce genre de situation, même si une pandémie comme celle-ci, c'était du jamais vu.
Alors, on va faire un petit récapitulatif de l'historique de l'hôpital de Calvi avant de rentrer dans le vif du sujet. Je pense qu'il est important de le faire. Alors, l'hôpital de Calvi, il date de quand ?
Alors, l'hôpital de Calvi, en tant que tel, date de 2012. Mais en fait, l'hôpital de Calvi, c'est avant tout, au départ, une antenne médicale de l'hôpital de Bastia. Et là, ça date de 77. Et c'était une antenne qui a été ouverte pour les 2 mois d'été en 77. Et sous la pression, à la fin de l'été, sous la pression des calvés, les instances de l'hôpital de Bastia ont été saisies et il a été décidé que l'aventure continue à Calvi. Voilà. Et donc au départ, c'est 6 infirmières, c'est 2 médecins et c'est une personne qui faisait un peu tout. Donc c'est-à-dire très peu de personnes. Hein, on est à 8-9 personnes, en sachant qu'aujourd'hui, on est à peu près une centaine de personnes qui travaillent à l'hôpital de Calvi.
Alors, on est sur une centaine de personnes. Il y a surtout le passage en mode hôpital.
Tout à fait. Alors, ce passage en mode hôpital, il intervient alors en 2011. Alors, il y a eu l'étape aussi du déménagement de l'hôpital, enfin de l'antenne, donc avec l'arrivée qu'on connaît où est l'hôpital actuellement, c'est-à-dire à Lieudit Guazzol. Et ça, l'arrivée là-haut date de 2008. Juillet 2008 pour les urgences et novembre 2008 pour l'USLD.
Donc tout ça pour un bien pour les calvés, puisqu'effectivement, on va dire qu'aujourd'hui, il est autonome.
Complètement, et puis surtout avec un accès qui est quand même relativement facilité, puisque l'idée à l'époque, c'était d'avoir les secours à l'extérieur quand même de la ville et plus avoir à rentrer dans Calvi pour aller à l'hôpital.
Oui, parce que peut-être que des auditeurs sont assez jeunes et ne se rappellent pas qu'effectivement, l'antenne de l'époque était à côté du stade.
Et un peu enclavé dans la ville.
Avec un accès compliqué pour les héliportages. Mmh. Et bien sûr, l'été, une difficulté d'accès négligeable. Ouais. Alors, vos collègues soignants du privé, les pompiers, les personnels administratifs, tout le monde a été sollicité. Est-ce que aujourd'hui, même si c'est un sacerdoce, vous ressentez un petit peu de la fatigue ?
Alors, c'est vrai que au moment de la première vague, on a été impacté, mais on était en tous les cas à Calvi, c'était pas non plus ce qu'on voyait c'était pas ce qu'on voyait sur le continent, on en était quand même très loin. Alors oui, il y avait des cas, oui, on en prenait en charge, mais c'était plus, je dirais, du stress à gérer. que vraiment ce qu'on voyait dans les hôpitaux et autres sur le continent, ou même par rapport à ce qui s'est passé à Ajaccio ou par rapport à ce qui s'est passé à Bastia. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hôpital de Calvi, c'est pas un hôpital de première ligne, évidemment. Donc on n'a pas de réanimation, on n'a pas tout ce genre de service. En revanche, on est un hôpital de proximité, donc notre objectif et notre fonds de commerce, entre guillemets, si je puis dire, c'est justement de répondre à la proximité et aux besoins de proximité. Donc déjà à la première vague, et ça s'est confirmé aussi à la seconde vague, on n'a jamais gardé de patients Covid à l'hôpital de Calvi.
Après, c'est vrai que sur le premier confinement, on va dire que Calvi a été plus ou moins épargné. C'était plus la région d'Île-Rousse qui avait été impactée.
Clairement. Ouais.
Et on va faire, je pense qu'il est important pour les gens, en fait, on va faire un petit laïus quand même pour ceux qui douteraient de la dangerosité de la Covid-19. Alors, c'est quoi précisément? Est-ce qu'il circule en balagne? Qui sont les patients qui l'attrapent et où l'attrape-t-il?
Alors, circuler en balagne, oui. Ça, c'est alors plus encore à la deuxième vague qu'à la première, hein, je le répète. Circuler en balagne, oui, ça c'est sûr. Hein, il y a les chiffres le démontrent. Hein, les labos, enfin, il suffit d'écouter les retours de l'ARS quotidien ou de les lire sur les réseaux sociaux. Ça, c'est incontestable. Contrairement, alors, sur la première vague, il y a eu aussi des décès, hein, on le sait. Sur la seconde, il y en a plus. Votre question, c'était concrètement où on l'attrape, comment on l'attrape. Bah, comment on l'attrape, c'est en ne portant pas le masque, en les réunions familiales. Alors effectivement, on se dit on est dans le cercle familial, mais ben il peut pas nous arriver grand chose. Sauf que oui, il peut nous arriver. On a vu qu'il y a eu des cas où effectivement c'était sur des clusters familiaux qu'on s'est retrouve que les gens ont été contaminés, hein, juste à l'occasion d'un, alors pas des fêtes, pas des choses comme ça, de simples repas de famille, hein, et puis plus vous multipliez le nombre de personnes autour de la table, et bien plus vous multipliez la possibilité de contamination, et puis des gestes barrières qui sont pas respectés, et effectivement, ben de vraiment de faire très attention quand on manipule des objets, quand on fait ses courses, quand c'est porter le masque. Avoir du gel hydroalcoolique sur soi de façon à pouvoir se laver les mains régulièrement ou en tous les cas quand on a touché des choses sur lesquelles on avait des doutes.
Alors on a tous en tête un petit peu ces personnes qui minimisent un petit peu cette pandémie. Est-ce que ça vous rend le travail plus compliqué? Ce week-end, il y a eu le reportage Hold Up qui a été vivement critiqué. Il y a les petites théories complotistes à droite à gauche, les gens qui minimisent un petit peu. Oui, je l'ai attrapé, ça va, je suis asymptomatique, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça complique votre travail?
Oui, ça complique le travail parce que effectivement, il y a toujours une partie. Alors. C'est comme ça, c'est ni bien ni mal, on est sur du constat, mais il y a toujours une partie de la population, alors encore une fois, pas simplement calvaise, mais de partout, hein, surtout, on pourra dire dans le monde, puisque la pandémie est mondiale, qui pense que, bah oui, c'est une grippe, et puis si on l'attrape, ben, ma foi, on aura la grippe, et puis on s'en remettra. Et que de toute façon, il y a des gens qui meurent de la grippe tous les ans, donc un peu plus, un peu moins. Non, faut pas avoir cette attitude, puisque on sait très bien que pour les personnes vulnérables, les personnes avec des comorbidités, donc avec déjà des maladies associées, ben, on sait très bien que ça peut être complètement délétère. Et alors oui, effectivement, et vous avez des personnes qui, puisqu'on entend aussi, on voit ça aussi sur les réseaux sociaux, où on nous dit oui, mais de toute façon, il est mort parce qu'on dit que c'est le Covid, c'est la Covid, mais il avait un cancer, mais il avait. Oui, ok, d'accord, ça n'empêche pas. Sauf que sans la Covid, il ne serait peut-être pas mort aussi rapidement.
Chronologiquement.
Et puis il y a des gens qui, bah, sur qui ça tombe et qui sont en pleine forme et qui sont. Aussi très très impacté.
Oui, même en très bonne santé et assez jeune.
Complètement.
Faut le rappeler.
Ouais.
Chronologiquement, en tant que professionnel de santé, avant le 17 mars, est-ce que vous aviez déjà des retours négatifs de cette maladie? Est-ce que vous étiez sensibilisé, préparé avant que le président en fait annonce le confinement, est-ce qu'il y avait déjà des retours au sein de l'hôpital en disant attention, il y a quelque chose qui circule, qui paraît assez dangereux, ou est-ce que ça vous est tombé un petit peu sur le coin du museau?
Non, alors ça nous est pas tombé sur le coin du museau, je dirais, puisque même sans être personnel hospitalier, on suivait l'actualité, et puis le plan blanc avait été déclenché le vendredi 13, je crois. Et le confinement, l'annonce du confinement est intervenue le samedi suivant, et voilà. Donc non, on était déjà dans les starting blocks, puisque les plans blancs des hôpitaux de Corse avaient été déclenchés. Donc on savait, et puis on avait quand même des informations, on avait des données qui nous étaient relayées par l'ARS, et on savait que on allait être à un moment, le Covid allait être là, et que ça circulait déjà en Balagne, et qu'il allait falloir prendre les choses en main, oui.
Plan blanc. Alors, il faudra peut-être expliquer un petit peu aux gens ce que c'est, parce que oui. C'est peut-être un petit peu austère pour les non-initiés. 17 mars, 11 mai, donc suite à l'allocution présidentielle, un confinement est déclaré. Donc il y a plusieurs choses qui se mettent en place. Il y a le plan blanc qui était mis un petit peu en amont, le télétravail, les tentes d'accueil. Je me souviens qu'à un moment, il y avait les tentes d'accueil.
Oui, absolument. Alors, les tentes d'accueil, c'était pas tout à fait le 17 mars, parce qu'on a attendu quand même un certain temps. D'ailleurs, on se disait qu'en Chine, ils arrivaient à construire un hôpital en 15 jours. Nous, on a attendu quasiment un mois pour avoir des autorisations de planter deux tentes. Mais voilà, et du fait, on s'était organisé parce qu'on savait que ça allait venir. On recevait des patients qui présentaient toute la symptomatologie au niveau des urgences. Donc on avait commencé à s'organiser, à avoir nos procédures, à mettre en place des mesures barrières. On avait à l'époque, et pour mémoire, on n'avait pas de masque ou peu. Enfin, en tous les cas, les masques, on les comptait. C'était quasiment de l'or en barre, les masques. Et on ne voulait pas arriver à une pénurie. Donc, les choses avaient été peu préparées. Alors, préparées avec les connaissances qu'on avait à l'époque.
Alors, pour les gens qui sont pas initiés, le plan blanc, je pense qu'ils ne savent pas à quel point ça mobilise d'énergie. Et à quel point ça peut impacter même la vie privée des personnels soignants, quel qu'il soit. Hein.
Alors le plan blanc, entre autres, donc ça veut dire que le personnel est à disposition, entre guillemets, même si j'aime pas trop employer ce terme-là, mais à disposition de la structure. Le plan blanc, on le déclenche quand il y a des catastrophes, des accidents avec de nombreuses victimes, quand il y a cette épidémie. Donc globalement, le plan blanc, ça dit que le personnel est rappelable. Ça veut dire aussi que on a déclenché le plan blanc là depuis quelques temps, mais on n'a pas redéclenché comme c'était la dernière fois. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas déprogrammé les interventions programmées. En tous les cas, les hôpitaux essaient au maximum, contrairement à la première vague, de maintenir une double filière, à savoir une filière Covid, bien évidemment, mais aussi, parce que là aussi, on a appris de l'expérience, aussi ne pas déprogrammer autant que faire se pouvait toutes les interventions qui étaient prévues, puisque, en principe, quand une intervention est prévue, c'est qu'on en a besoin.
Alors, on a ressenti un bel élan de solidarité pendant ce premier confinement. On se rappelle tous les applaudissements de 20h. Bon, même si ça servait pas à grand-chose pour certains, ils étaient là. Les repas offerts, que ce soit aux pompiers ou au personnel soignant, j'ai quasiment tous les soirs sur les réseaux sociaux, on pouvait voir qu'il y avait des pizzas qui étaient livrées, des plats. Il y a aussi Anto qui a fait.
Absolument.
Il est là, donc il pourra peut-être nous en parler un petit peu, qui nous a fait ses enveloppes. Est-ce que tout ça, ça touche un petit peu, parce qu'on a toujours peut-être l'impression de faire des choses assez ingrates dans ce cadre-là.
Non, bien sûr que ça touche et c'est touchant parce qu'effectivement on a eu des dons. Alors on l'a dit, comme Anto, on a eu le Lions Club aussi pour les dons un peu plus conséquents, parce que le don d'Anto, le don du Lions Club, il y avait aussi les socios de Bastia, il y a une association à Lumio aussi qui nous ont fait des dons, je dirais pécuniers. Et effectivement, ce sont les bienvenus parce que effectivement, il y a des surcoûts. Clairement. Et puis, il y a eu toute une frange de la population aussi qui nous amenait des gâteaux, nous nous amener des pizzas. Au moment de Pâques, on a eu des œufs de Pâques aussi, voilà. Mais toutes ces choses, oui, évidemment, c'est touchant. Et puis le personnel était très touché parce que c'est vrai que quand on est dedans, on avance et avoir une reconnaissance, ça fait toujours plaisir, ouais.
Surtout peut-être, alors là, je vais un petit peu insister sur ce truc-là. À Calvi, l'hôpital, on a toujours, les Calvi, on a toujours l'impression qu'en fait, l'hôpital leur appartient et que le personnel n'est pas assez attentif, n'est pas assez réactif aux besoins, des fois, sur des bobologies. Et on peut penser, des fois, qu'il y a un petit désamour. Et c'est vrai que ces moments de rassemblement, de solidarité, permet aussi de voir à quel point les gens sont investis au sein de l'hôpital.
Tout à fait, mais je pense que c'est l'histoire de l'hôpital aussi qui veut ça, parce que s'il n'y avait pas eu la population calvaise qui s'est battue depuis des décennies, il y aurait pas d'hôpital à Calvi. Et c'est vrai que l'hôpital de Calvi a toujours bénéficié de diverses associations, notamment Santé Balagne, où ils ont toujours financé, ils se sont battus pour que cet hôpital existe et ont financé, tous les ans, ils financent quelque chose. Et de ce fait, effectivement, je pense que la population s'approprie son établissement de santé. Alors après, il y a toujours des gens qui seront insatisfaits, mais voilà, je pense que le personnel de l'hôpital, c'est les vies qui ont été sauvées à l'hôpital de Calvi. Alors oui, effectivement, c'est un hôpital, donc on sauve pas tout le monde, on est bien d'accord. Alors c'est sûr que les personnes pour lesquelles ça se passe plus mal, oui, on comprend qu'ils soient, quand on est dans la peine, on n'a peut-être pas un jugement qui est aussi, clairvoyant. Mais après, voilà, l'hôpital de Calvi, en général, c'est quand même un établissement qui a sa place au sein de la Balagne, je dirais, et nombre de personnes. Personne est quand même satisfait d'avoir été pris en charge à l'hôpital de Calvi.
Alors, le déconfinement, au-delà des risques sanitaires, des protocoles sanitaires imposés par l'État, des investissements lourds, on ouvre les vannes un petit peu au mois de juin. Juillet, août, septembre, il y a du monde, surtout du continent, puisqu'on perd un petit peu la population touristique étrangère. Fallait-il être aussi... comment je pourrais dire, large dans l'offre d'arrivée. Est-ce que finalement cette deuxième vague, elle vient pas de là?
Moi, j'ai pas compétence à dire s'il fallait ou il fallait pas. C'est pas mon propos. Par contre, on sait très bien que plus vous faites venir du monde, plus il y a de risques, clairement. Donc bon, après c'est un fait. Il y a eu du monde. Il y avait des mesures barrières qui étaient appliquées. Elles ont été plus ou moins appliquées. La deuxième vague, on travaillait dessus depuis le déconfinement, puisque il n'y a pas de secret. Le virus circulait quasiment plus. En même temps, il n'y avait personne qui circulait non plus. Donc on sait très bien que à partir du moment où on repermet de pouvoir se déplacer, de pouvoir circuler, de pouvoir... Forcément, il y aura à nouveau du virus. Ça, c'est clairement.
Au niveau économique, le bilan financier, est-ce que la Covid va peser sur les finances de l'hôpital? Parce que je suppose que les consultations externes ont été impactées, au moins sur le premier confinement, puisque vous avez dit que sur le second... on essayait de faire un peu un dispatchage entre côté Covid et côté consultation externe. Est-ce qu'à la fin, sur le bilan, ça va se ressentir?
Sur le bilan financier, oui, nécessairement, parce qu'il y a, vous savez ou vous savez pas, mais quand on fait un budget hospitalier, il est prévisionnel. Donc on nous demande au mois d'octobre 2019 de prévoir le budget de 2020. En plus, le 2019 avait été une très bonne année à l'hôpital de Calvi, donc on avait eu des recettes, voilà. Donc, sans partir sur les mêmes recettes, Alors, effectivement, on est passé le 17 mars où on avait à peu près 45 passages à l'hôpital aux urgences. On est passé au 18 mars où on s'est retrouvé avec 10 passages. Donc forcément, ça fait pas pareil. Néanmoins, Néanmoins, il fallait être le personnel était le même, et puis après on a aussi eu du personnel contaminé, enfin bon, moins sur la première vague là, que sur la deuxième, mais voilà. Donc oui, et puis il y a tous les équipements qu'il a fallu acheter, je veux dire les gants, les masques, les surblouses, le gel hydroalcoolique, voilà. Donc oui, forcément, et puis des machines, du matériel dont il a fallu s'équiper. Donc oui, forcément, il y a un surcoût. Alors on est compensé en partie sur par les autorités de tutelle, mais oui, à la fin de l'année, je pense que les comptes ne seront pas ceux qui avaient été prévus, bien sûr.
Alors, dans le cadre d'un éventuel vaccin, on sait que Pfizer s'est avancé en annonçant qu'ils avaient trouvé un vaccin qui était efficace à 90%. On n'a pas de date de commercialisation. On est à la phase 3 de ce vaccin. Il y a encore une ou deux phases à passer avant la commercialisation. Ils annoncent 1,5 milliard de doses d'ici mi-2021. Localement, comment ça pourrait se traduire, cette arrivée de vaccin? C'est-à-dire, l'hôpital pourrait être un endroit où on vaccinerait en masse.
Alors ça, pour aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour le dire. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que, alors c'est voilà, ça n'a pas de lien particulier avec le vaccin, mais c'est notre actualité, c'est que à compter de mardi, on est site expérimental pour les tests antigéniques. Donc alors en milieu hospitalier, parce que effectivement à la pharmacie du coin, il y a aussi des tests antigéniques. Donc ce qui va au niveau de l'hôpital, nous changer aussi un peu l'organisation et nous soulager, c'est que les tests antigéniques ont démontré qu'ils étaient quand même très fiables sur les personnes symptomatiques et on avait très très rapidement on savait très rapidement si la personne était positive, et pour la prise en charge, ça va être quand même plus facile entre quelqu'un pour lequel on attend 15 minutes pour savoir si oui ou non il est positif. C'est quand même plus facile que d'attendre 24-48 heures. Donc ça va nous changer par rapport à la prise en charge et par rapport à la contamination. Après, le vaccin, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des tutelles, et c'est pas l'hôpital qui décide de tester, qui décide de faire des vaccins, qui décide, c'est en concertation avec les tutelles et les tutelles de référence que sont l'ARS.
Donc, à partir de quelle date on pourra faire des tests antigéniques à l'hôpital?
Alors, on pourra les faire à partir de mercredi, hein, puisqu'on va les recevoir. Mais quand je dis ça, c'est pas, ce que je veux dire.
Sous aussi, réserve de symptômes,
voilà,
sous réserve,
bien
voilà.
Sûr,
c'est
bien
pas,
sûr.
C'est pas la loterie, on n'y va
non,
pas pour.
Non, c'est pas le déplacement de la journée. Et... non, pas du tout. C'est pas ça.
Non, c'est intéressant parce qu'au fait, au
puis
départ,
il y a des protocoles. Enfin, je veux
la Corse s'était distinguée sur le premier confinement, justement, à Bastia, où il y avait énormément de gens au prorata de la population qui allaient se faire tester. Et finalement, pour des résultats qui n'étaient pas aussi importants en termes de en termes de positivité sur la Covid. Et c'est vrai qu'il faut peut-être faire attention de pas rééditer l'erreur du premier confinement et d'aller se faire tester entre guillemets pour rien si on n'a pas de symptômes, si on se sent bien.
C'est ça.
C'est peut-être pas la peine de.
Voilà. Mais de toute façon, quelqu'un qui serait ça passe par le médecin c'est le médecin qui, en fonction de la clinique de la personne, décide si oui ou non. En fait, ça change. Ce que ça va nous changer, c'est qu'au lieu d'avoir un résultat qui arrive sous 24 heures, on aura un résultat qui est quasiment immédiat.
Sur le futur assez rapide de l'hôpital, il y a le déconfinement qui pourrait être prévu pour le 1er décembre. Comment on voit les choses au niveau de l'hôpital? Parce qu'il y a les fêtes de Noël qui se préparent.
Oui. Absolument. Donc
une certaine angoisse, plus ou moins, de reprise.
Une certaine angoisse, oui, forcément, parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets. On attend de voir quelles vont être les mesures qui vont être décidées. Mais c'est vrai que si on décide de déconfiner d'un seul coup, on pourra même parler de troisième vague.
Donc toujours le risque de rééditer ces confinements, arrêts, confinements, arrêts.
Tant qu'il n'y aura pas de vaccin, tant qu'il n'y aura pas de traitement, oui, forcément, c'est un risque.
Alors, est-ce qu'il y a des choses à dire sur l'hôpital hors Covid que vous souhaiteriez aborder, sur de nouveaux soins, peut-être de nouvelles consultations externes, des choses mises en place qu'on n'aurait pas abordées.
Non, la nouveauté par rapport au précédent confinement, effectivement, il n'y a pas de déprogrammation des consultations externes. Donc, on continue à avoir cette activité. Donc, ça, c'est plutôt bien. Après, des projets, on en a, mais ils sont encore en
phase embryonnaire.
Non, on est un peu plus avancé qu'embryonnaire, mais bon, dans les projets qui devraient aboutir là assez rapidement, on est en train de travailler sur une réouverture d'une HAD en Balagne. Voilà. Donc ça fait partie des projets qui vont voir le jour. Bon, après
HAD pour les profanes,
alors, hospitalisation à domicile, et on est sur un partenariat avec l'ancien HAD et l'hôpital pour pouvoir reproposer cette offre de soins à la population de Balagne.
Voilà. D'accord. Daniel, merci d'être venu nous éclairer sur l'hôpital de Calvi et son action face à cette pandémie assez importante. On vous souhaite bien sûr beaucoup de courage et surtout la santé pour vous, le personnel hospitalier qui se mobilise tous les jours, qui se lève tous les jours pour prendre soin de nous. Donc en contrepartie, ce qui serait bien de répéter, ce serait de faire attention, nous, à notre niveau, de bien respecter les gestes barrières, donc si j'ai bien compris, de porter le masque et d'éviter de se réunir à plus de 6.
Tout à fait.
Voilà. Et écoutez, merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée à vous tous.